C'était Jaloux Corona, une chanson qui est, semble-t-il, un hit vietnamien. Le Vietnam, le pays d'origine de ma première invitée, Kim Thuy. Bonjour, Kim.
Oui, ça va bien.
Oui.
Vous m'apprenez des choses. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la chanson.
Ah ben, ça commence bien, puis c'est un bel échange parce que vous m'avez appris tant de choses en vous écoutant et en vous lisant depuis longtemps, en fait.
Ah ben là, vraiment, je suis flattée, tu sais, parce que la seule raison pourquoi j'écris, c'est vraiment pour partager avec vous ce que je trouve beau. La beauté des choses, c'est tout. J'ai pas d'autres intentions que ça.
Le beau et le bon, parce que je disais en introduction que j'allais à votre restaurant à l'époque et que c'était bon.
Ah, oh, ben oui, donc vous connaissez mon ancienne vie, en fait.
Oui.
Oui, j'avais le restaurant pendant 5 ans, mm-hmm. donc j'ai eu le temps d'apprendre. Donc, il y a Michael Gladwell, je crois, qui a écrit mm-hmm. que si on fait le même geste 10 000 fois, ouais. on devient bon. Ben, c'est ça qui est arrivé.
Oui, dans le livre Outliers, effectivement. Mon fils est en train de lire ça, apprend tout l'importance de la discipline. Et dans la table de Kim, on voit là, que votre talent d'hôtesse, il vient de cette époque-là.
Oh mon Dieu, je vous dirais que c'est depuis longtemps, dans mm-hmm. le sens où on a toujours beaucoup reçu à la maison, mm-hmm. Depuis mes grands-parents, en mm-hmm. fait. Donc, je suis née avec des tables remplies de mm-hmm. gens et qui discutent pendant très, très, très longtemps. Donc, ça fait partie de mon ADN, plutôt, oui.
Justement, dans la table de Kim, je voyais que vous aviez pu garder de certaines pièces de porcelaine de vos grands-parents.
Mm-hmm. Oui, c'est le seul souvenir de mes grands-parents mm-hmm. Paternels. Miraculeusement, ces bols que j'ai en possession depuis une vingtaine d'années ou plus, non, plus que 20 ans, existent encore. Alors qu'on les utilise au quotidien,
ouais.
mais étrangement, ils résistent. Alors que toutes les autres vaisselles, bon, en tout cas, on en casse assez souvent.
La qualité dure.
Ou c'est eux en haut là, qui nous rattrapent à chaque fois qu'on échappe ou que le bol glisse.
Ils veulent s'assurer d'être toujours là avec vous.
Oui, oui.
Kim, comme 49 000 autres personnes, je vous suis sur Facebook. Et en novembre dernier, j'étais très touchée de vous voir broder là, 2079 exemplaires
oui.
de votre 4e roman M d'un fil rouge. Et mm-hmm. surtout de voir que c'est un projet intergénérationnel. Et c'est ça, j'ai envie que vous décriviez un petit peu quel a été ce projet-là. Et pourquoi c'est important de faire ça avec votre mère et votre fils Justin Valmont?
Au départ, c'est que il y avait le tableau de Louis avec du fil. Mm-hmm. Et moi, j'ai toujours aimé le fil. Vraiment, j'avais du fil à broder à la maison. Vraiment, en ma possession déjà. Et là, j'essayais de voir comment est-ce que je pouvais être en contact avec les lecteurs sans être en contact mm-hmm. avec la pandémie et tout ça. Et finalement, j'ai pensé à ça. J'ai dit, peut-être je peux broder un fil. Comme ça, le lecteur qui prend le livre, qui tient le livre, c'est que je l'ai touché aussi, je l'ai travaillé, parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, le papier, il est solide, mais pas tant. Mm-hmm. Donc, quand on met les deux trous de l'aiguille là, trop proches, ça déchirait le papier. En même temps, je voulais que ce soit proche pour qu'il n'endommage pas trop, tu sais, qu'on ne voit pas un gros fil de dos. Donc, il fallait que les deux trous soient très proches quand même. Mais j'ai une maman qui est une experte, en fait, mm-hmm. qui a cousu beaucoup, beaucoup pour les designers et tout ça ici, là, au Québec. Mm-hmm. Et donc, elle dit, bon, je vais t'aider à le faire. Puis, au début, je pensais faire peut-être une centaine. Ça prend quand même un peu de temps. Mais ma mère était là, elle dit, non, tu peux en faire plus. Ah oui, on en fait plus. Et puis là, je savais pas que chaque fois que le livre est brodé, il faut qu'on mette un autre numéro d'ISBN. En tout cas, le code barre, mm-hmm. il fallait un autre code. Et donc, il fallait coller une autre étiquette. Et étrangement, mon fils Valmont, qui est autiste, mm-hmm. il nous voyait faire ça. Et comme ça, il s'est assis, puis il nous a collé tous les nouveaux collants, vraiment plus rapidement que nous, puis vraiment plus droit. En tout cas, il était beaucoup plus assidu et beaucoup plus rapide. Et donc, et mon autre fils, mon aîné, il dit « Ah, maman, je vais venir t'aider à placer tout ça, à sortir les boîtes, parce que quand même, à 2000 quelques livres dans la maison, il y avait beaucoup de déplacements de livres et c'était quand même lourd. Donc, c'est devenu une entreprise familiale. Mon père qui a sorti des tables pour nous installer tout ça. Mais c'est une chose, c'est typiquement chez nous, je vous dirais. Peu importe le projet là, de chacun, tout le monde est obligé de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Mes folies impliquent toujours la participation de tout le monde.
Non, c'était très touchant et vous parlez de fil et notre émission s'appelle Au fil du temps et fait le lien entre les générations. Alors, je trouvais que c'est un exemple qui était du bonbon pour moi. Et j'ai l'impression, quand je constate tous les métiers que vous avez faits, que j'ai envie de dire que vous êtes un peu une créatrice de liens.
Ah, j'adore faire des liens. Mm. Je me dis, si j'étais bonne en informatique, peut-être que j'aurais créé Tinder.
Oui!
Parce que dans ma vie, je dois avoir essayé de matcher au moins, je sais pas, des centaines de personnes. Là, je dis, j'ai même pas de chiffres. Dès que je vois quelqu'un, puis là, je dis, ah, mais non, mais il faut que tu rencontres telle autre personne, puis telle autre. Mais ça, au niveau amoureux, oui, mais aussi au niveau professionnel. Vraiment, là, je ne peux pas m'empêcher. Puis on rit de moi parce qu'au niveau amoureux, là, j'ai réussi 2 couples sur 10 000, là, tu sais, donc je suis pas bien bonne, finalement, comme matcheuse. Mais au niveau professionnel, je vous dirais, je pense que je réussis à vraiment présenter les gens aux bonnes personnes et tout ça pour soit pour qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaît plus ou qui convient mieux et tout ça. Donc, je constamment.
On vous a déjà dit d'ailleurs que vous voyez facilement le beau chez les gens et que c'était vraiment, même je pense votre mère vous a dit que vous voyez spontanément le beau. Comment cultiver ce regard du beau sur les autres avec le chemin, l'expérience, les inévitables déceptions qui parcourent
Ben justement parce que on sait que vivre c'est difficile. Hein? Déjà, on part avec ce principe-là et donc c'est une discipline. De voir la beauté, de chercher la beauté, de préserver la beauté qu'on voit ou qu'on trouve. Et donc, je vous dirais, c'est pas le premier réflexe que nous avons. Il faut vraiment s'y mettre. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on s'y met assez longtemps, si on pratique assez longtemps ce geste-là, ben, il devient un réflexe. Comme là, je vous parle, là, puis ma mère, elle a toutes les plantes chez elle, en dedans. Sa maison est devenue un solarium, en fait. Mais l'hiver commence à être long, puis les arbres commencent à être fatigués et tout ça. Mais au milieu de toute cette verdure qui se perd un peu, il reste un piment. Un piment tout beau, tout séché sur l'arbre, sur le plan. Et je suis en train de regarder ça, je dis, mais c'est fabuleux, ce piment qui a survécu à l'intérieur, alors que normalement, il pousse mieux à l'extérieur et tout ça. Et puis aussi, je crois qu'il faut s'entraîner, parce que c'est très facile de voir que, mon Dieu, les arbres commencent les plantes commencent à perdre ses feuilles et tout ça. Mais au milieu de toute cette tristesse, je vous dirais.
En fait, c'est une forme de résilience qui s'exprime là. Et je me demandais si c'est justement si c'est culturel ou si c'est une valeur transmise de vos parents, parce que j'ai entendu là, que vos parents ont déjà dit qu'ils n'avaient pas d'héritage comme tel à vous transmettre, mais j'ai l'impression qu'ils vous transmettent déjà tellement plus.
Ah mais oui et d'ailleurs on est en train de leur dire là d'utiliser tout l'argent qu'ils ont s'il vous plaît avant qu'ils partent parce qu'on n'a pas besoin puis on veut Ben, on veut qu'ils en profitent, puis en même temps, ben, ils ont, mon père, il a 82, ma mère, 76, donc leurs besoins diminuent. Ils n'ont plus beaucoup de dépenses. Et donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est forcer ma mère à acheter des vases qu'elle aime, des pots qu'elle aime pour son jardin et ne pas s'en empêcher, là. Mais sinon, je crois que mes parents nous ont vraiment transmis cet amour pour la vie en général. C'est-à-dire, pour mon père, en fait. Mm-hmm. Mon père, c'est génétique. Il se force pas du tout. Ça vient de lui tout seul. Il est juste content.
Ouais. Il est content. C'est une nature heureuse.
Oui, oui, oui. Il est content avec rien, vraiment. Mm-hmm. Alors que ma mère, je vous dirais, c'est une battante. Mm-hmm. C'est tout le contraire de mon père, dans le sens où elle cherche toujours à être meilleure. À apprendre, pas être meilleur que quelqu'un d'autre, mais atteindre, oui, la meilleure version d'elle-même, là, je dirais. C'est comme par exemple les plantes, peu importe, s'il reste juste une feuille, elle va tout faire pour travailler, pour garder la plante puis la sauver. Et l'année suivante, de trouver un meilleur moyen pour conserver les plantes et tout ça. Donc, je vous dirais, ma mère est une battante. Elle n'arrête jamais. Donc, c'est pour ça que quand elle cuisine, c'est jamais le même plat.
Ouais,
la fois suivante, il y a toujours un petit changement parce qu'elle a trouvé un meilleur ingrédient, une meilleure méthode ou qu'elle a entendu quelqu'un lui donner un conseil sur telle ou telle chose. Donc, jamais on a réussi à manger la même chose.
C'est constamment en amélioration. Kim, on va faire une petite pause musicale avec une pièce que j'ai envie de faire découvrir à nos auditeurs. En fait, une pièce qui est issue de votre plume.
Oh.
Berce-moi. Dont les paroles sont issues, je crois, d'une correspondance que vous avez eue avec Alain Labonté.
Je vous dirais, c'est surtout Alain qui a écrit. Moi, j'ai peut-être dit un ou deux mots là-dedans.
Ah, mais c'est des mots qui sont très forts. Alors, j'invite nos auditeurs à l'écouter. La pièce s'appelle « Berce-moi » et on poursuit tout de suite après. C'était « Berce-moi » de Bruno Pelletier qui évoque pour moi justement la résilience et de voir le beau. Les fleurs malgré la fumée et les balles. Et Kim, à 10 ans, les auditeurs connaissent votre histoire. Vous avez dû quitter le Vietnam, ce pays que vous avez dans le sang, pour rejoindre le Canada, ce pays que vous avez sous la peau. Très jolie phrase que j'ai lue de vous. Et un autre qui m'a parlé, c'est, vous avez dit, grâce à l'exil, mes enfants n'ont pas été le prolongement de moi-même et de mon enfance.
Oui.
C'est riche, ça?
Ben oui, parce que... En même temps, j'ai dit ça quand j'ai écrit Rue, c'est-à-dire il y a 11 ans déjà, 12 ans. J'ai changé un petit peu d'avis depuis.
C'est ça l'évolution, hein, c'est la vie.
Ben oui, je suis contente en fait quand je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit il y a 12 ans, c'est-à-dire que j'ai appris quelque chose et que je continue à évoluer et non pas de rester stagné à un même endroit. Je vous dirais que malgré nous, hein, on transmet ce qu'on porte et j'ai ce bagage du Vietnam et à l'époque, quand j'ai écrit Rue, je pensais que je n'avais pas une identité propre. Que j'étais assise entre deux chaises.
Ouais.
Et c'est un journaliste français qui m'a dit à Grenoble, je me souviens encore, là, on était assis dans un petit coin, puis il m'a dit, mais vous savez, votre identité n'est pas géographique, mais plutôt culturelle. Et depuis lui, j'ai compris qu'en fait, quand on aime une culture, même si on la connaît imparfaitement, on a le droit de l'approprier et de dire c'est à nous. Mm-hmm. Et donc, moi, j'aime ma culture francophone, québécoise, j'aime ma culture canadienne, anglophone, j'aime ma culture vietnamienne et tout ça. Donc, toutes ces cultures-là sont à moi. donc, je dis souvent aux jeunes immigrants qui arrivent, là, je dis, on n'est pas assis entre deux chaises. Mm-hmm. On est assis sur les deux chaises. Puis, c'est pas juste une tarte là où on doit dessiner le pourcentage on a deux tartes, trois tartes, quatre tartes, tu sais. et donc je me dis j'ai ce bagage-là de la culture vietnamienne, puis malgré moi, ben oui, je transmets ne serait-ce que la sauce de poisson. Donc ce n'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, que mes enfants sont complètement détachés de mon passé. Ils sont une suite Mais c'est une sauce de poisson qui se mange dans la neige.
c'est vraiment bon. Ben, en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on apprend cette culture-là en la vivant, puis souvent c'est en vieillissant qu'on retourne même à nos origines. Mais, et vous parliez de culture, j'aimerais ça vous entendre justement dans la culture asiatique, on semble davantage à l'écoute justement de la sagesse des aînés.
Oui, parce que je vous dirais, parce qu'on considère qu'on est une chaîne, que je suis juste le résultat de ce que mes parents ont été, de ce que mes aînés, mes grands-parents, arrière-grands-parents et tout ça. Donc, on n'est pas responsable de notre propre succès ou de nos propres échecs, en fait, parce que si ça, tout dépend d'eux. S'ils étaient des mauvaises personnes, ben on a un mauvais destin, c'est tout. S'ils étaient des bonnes personnes, on a un bon destin, puis nous, ben, on a la responsabilité de vivre le mieux qu'on peut pour transmettre justement un bon destin à notre descendance, à la prochaine génération. Mm-hmm. Donc, vous ne portez jamais le poids de vos échecs. Tu sais, c'est léger, c'est vraiment facile. Puis les succès non plus, parce que vraiment, les amis de mes parents, encore, là, quand ils viennent, ils disent « Ah, tu sais, tes parents sont des bonnes personnes, c'est normal que ta vie soit facile. » Donc, c'est ça l'explication, en fait. Donc, quand on est dans une chaîne, ben on n'a pas le choix de respecter ceux qui étaient avant nous, parce que c'est eux qui ont tracé le chemin pour nous. Donc, je remercie le ciel. Je crois vraiment que mes parents et mes grands-parents étaient de très bonnes personnes, parce que vraiment, j'ai une très belle vie. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils ont pavé ma route vraiment avec de l'or, je dirais.
Oui, vous suivez le fil. Vous parlez d'échecs et de succès, et j'ai vu que vous donnez une conférence après appelée justement « Le succès de mes échecs ».
Oui.
Et vous parlez justement de l'échec du restaurant qui est devenu un tremplin pour votre carrière de romancière. Donc, quelles leçons vous donnez aux plus jeunes tirées de cette aventure-là que vous avez vécue?
J'ai dit échec, c'est sûr, parce que ici, je crois qu'on considère ça comme échec, mais pour ma mère, elle m'a dit, c'est un apprentissage. Ça, c'était des années d'apprentissage à chaque fois, parce que sinon, on n'apprend rien. Donc, il faut qu'on ait l'impression, c'est un peu, ben pas que c'est difficile, mais qu'on est en train d'apprendre des nouvelles notions, qu'on aiguise un peu hein, nos habiletés et tout ça. Donc oui, c'est une épreuve, comme les athlètes en fait, hein, quand ils ajoutent des poids, quand ils ajoutent de la hauteur ou de la distance, c'est pour devenir plus fort, plus résistant, plus rapide, par exemple. Donc les épreuves peuvent être vues comme étant des occasions pour devenir meilleur. Donc, je regarde vraiment les épreuves sous cet angle-là. Oui, c'est dur pendant qu'on fait, un peu comme un athlète qui se réveille à 4 heures du matin pour aller pour sauter dans une piscine glaciale, là, tu sais, à faire des longueurs. C'est sûr, c'est dur. Mais en bout de ligne, il va être plus en forme. Que quelqu'un qui n'a pas la même pratique ou le même entraînement. Donc, je crois que je regarde ça comme étant... Tu sais, je dis à mon fils, oui, c'est plate une année pandémique à rester étudier de la maison, ne pas avoir les amis, parce que quand on va à l'école, c'est pas seulement l'école, on apprend aussi le côté social et tout ça. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que pendant cette année, il a appris d'autres choses.
Absolument.
On ne sait pas encore c'est quoi, mais il a appris peut-être la patience. Mais déjà, je vois sa relation avec son frère. Il est tellement plus proche, tellement plus empathique. Il était déjà là. Mais là, c'est l'occasion d'être vraiment... C'est peut-être notre seule année où on peut être aussi ensemble. Il n'y a jamais eu de ce temps précieux de lune de miel là, que j'ai avec eux. Alors, oui, peut-être qu'on faire autre chose si on prend ce talon de mesure-là, mais il faut prendre un autre talon de mesure pour voir qu'est-ce qu'on a gagné aussi à travers tout ça.
En terminant, Kim, je vous ai déjà entendu dire que vous avez eu droit à une deuxième vie avec cette arrivée-là, et j'ai l'impression, en vous entendant, que vous voyez justement différentes vies dans le moment présent.
Oh mon Dieu, je ne sais pas combien de vies que j'ai eues, je pense que je suis comme un chat. Ben, je sais pas si c'est vrai que le chat, il a 9 vies, mais moi, je peux vous dire que ben, tous les jours, j'ai l'impression que j'ai une nouvelle vie parce qu'on me propose toujours oui. quelque chose de nouveau à essayer, à expérimenter. Et donc, oui, tout à fait. Je me dis, en tout cas, je touche du bois là jusqu'à mm-hmm. maintenant. Que j'ai pas encore, que j'ai pas attrapé la COVID. Mon Dieu, ça, c'est comme avoir eu, là, ça fait un an, donc peut-être 300 vies déjà.
Ah, c'est merveilleux, 300 nouvelles vies.
Mais oui.
Merci pour cette vie, ce moment que nous avons, ce moment éphémère et pourtant gravé dans ma mémoire jusqu'à toujours que nous venons de passer ensemble, Kim Thuy. Ben.
Merci beaucoup et désolée pour le dernier appel là, que j'étais prise avec mon fils. Alors, voilà.
On se réinvente constamment. Merci, Kim. Au revoir.
Merci. Au revoir.